autour de la question.
D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Igor Strauss.
Article 1. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Nous connaissons tous ce premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948. Mais d'autres articles encore au cœur de l'actualité restent moins connus. Exemple au hasard et dans le désordre. Article 25. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Question, les auteurs de ces lignes portaient-ils un gilet jaune? Article 13. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Question, mais alors pourquoi certains États dressent des murs à leurs frontières quand d'autres abandonnent des migrants au milieu de la Méditerranée? S'il est bien une propriété spécifique des êtres vivants, nous disent les scientifiques, c'est leur propension à se propager dans l'espace et dans le temps. Alors pourquoi les migrations sont-elles toujours abordées sous l'angle de la rupture d'équilibre, dépeintes comme un problème à contrôler, une menace à contenir? Pour éclairer cette question, hors de toute dimension polémique, le Muséum national d'histoire naturelle a publié le 22 novembre dernier un opus consacré aux migrations, justement, avec un regard scientifique et dépassionné. Une façon également de célébrer les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, que nous révèle ce manifeste? Qu'est-ce qui pousse les scientifiques à s'emparer de ces questions sociales autour de la question « La migration est-elle toujours un droit ?» Bonjour et bienvenue. Bruno David, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président du Muséum national d'histoire naturelle et l'initiateur de ce manifeste sur l'immigration. Et Frédéric Schlouz, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue également. Vous êtes ethnologue, professeur et directrice du département Hommes et Environnement du Muséum et l'une des auteurs du manifeste. Bruno David, quel regard portez-vous sur la Déclaration universelle des droits de l'homme aujourd'hui? Qu'en reste-t-il selon vous?
D'abord, c'est un texte magnifique.
Et complet.
On fête son 70e anniversaire. Nous allons célébrer cela sur la colline de Chaillot avec nos partenaires du Théâtre de la Danse au Musée de l'Homme, qui est un des sites du Muséum National d'Histoire Naturelle. On a une saison qui vient de s'ouvrir, qui s'appelle la saison En Droit, qui va justement célébrer un certain nombre d'articles. Et ce manifeste sur l'immigration est une des manifestations, disons, qui environne ce 70e anniversaire.
Mais que reste-t-il des valeurs qu'il véhiculait?
Alors, j'espère qu'il en reste un maximum. Quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, ça n'est pas certain. Mais ce qu'il faut, c'est en tout cas, c'est se battre pour qu'elles reviennent, si elles avaient disparu, et tout faire pour tenter d'expliquer. Et je crois qu'un grand muséum est dans son rôle quand il cherche à expliquer, à éclairer, à montrer en quoi la science peut finalement apporter des éclairages sur des questions qui sont des questions toujours complexes.
Et polémique. Frédéric Schlouz, vous êtes donc ethnologue, mais le manifeste sur l'immigration rassemble des scientifiques de différentes disciplines, sociologie, anthropologie, démographie, archéologie, génétique, philosophie et j'en passe. C'était important d'être le plus complet possible.
Oui, c'est le premier exercice que l'on a fait, c'est essayer de déterminer toutes les disciplines qui pouvaient nous permettre de répondre de la manière la plus complète à cette question des migrations. Vous avez oublié aussi l'écologie.
Oui, je dis que j'en avais oublié.
Non, mais parce que l'écologie aussi, c'est l'homme est un être vivant comme d'autres, et donc la dimension biologique était aussi une dimension intéressante à prendre.
Le but, c'était de présenter des connaissances fiables, sans verser dans l'alarmisme ou l'angélisme inversement.
Oui, c'était d'essayer d'avoir un petit peu l'état des lieux aujourd'hui des connaissances qui progressent, hein, sur cette question des migrations et qui peuvent être traitées de manière extrêmement différente par un préhistorien, par un généticien ou par un démographe.
Bruno David, vous trouvez que c'est un débat trop passionné, avec trop de contre-vérités, d'inexactitudes, voire de mensonges, ce débat sur les migrations?
Oui, je crois qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, mais le muséum avait fait un premier manifeste l'an dernier, qui était dans un contexte et sur un sujet complètement différent. Et cette fois, on n'est pas en position de lanceur d'alerte, mais au contraire, on est dans une position de dire attention, les alertes qu'on est en train d'entendre un petit peu dans tous les sens ne sont pas nécessairement scientifiquement fondées. Et quand je le dis comme ça, ça veut bien dire qu'elles ne sont pas fondées du tout scientifiquement. Et donc, on est dans un appel à la raison. et à la rationalité face à un phénomène complexe qu'on essaye d'éclairer scientifiquement le mieux possible.
Alors jusque dans les années 50, hein, l'Europe demeurait la principale région de départ des migrants qui allaient en Amérique, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Les Européens ont la mémoire courte, Frédéric Schloss ?
Certainement, parce que quand on voit effectivement, quand on prend en compte l'histoire, on s'aperçoit que dans l'exemple, un exemple est cité dans le manifeste de ce massacre des Italiens à Aigues-Mortes.
Au sud de la France.
Oui, au sud de la France. On peut se dire qu'effectivement aujourd'hui, on peut être descendant d'Italiens et cette mémoire même parmi les descendants n'existe plus. Ça pose vraiment la question de cette histoire des migrations. On pourrait remonter beaucoup plus loin puisque l'histoire des migrations nous dit l'histoire de l'humanité aussi.
Et on va y revenir évidemment tout au long de cette émission. Mais avant ça, nous allons accueillir une autre invitée en direct de Paris au téléphone. Bonjour Lola Schulman.
Bonjour.
Vous êtes chargée de plaidoyer sur les questions relatives aux migrations, à l'asile et aux droits des réfugiés chez Amnesty International France. Alors la chancelière allemande Angela Merkel l'a reconnue récemment. Si l'Assemblée générale de l'ONU était appelée à voter aujourd'hui pour la déclaration des droits de l'homme, celle-ci ne serait certainement pas adoptée. Qu'est-ce que cela vous inspire et qu'est-ce que cela traduit de nos sociétés finalement ?
Mais oui, effectivement, en tout cas, ça pose de nombreuses questions et problématiques sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui, après 1948, et le fait qu'aujourd'hui, 192 États membres sont liés à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais finalement, c'est en lien avec ce que vous disiez auparavant, c'est-à-dire que en 48, l'Europe était en proue sur la question des droits de l'homme. Et aujourd'hui, notamment, je prends l'exemple...
On sortait du fascisme et du nazisme. C'était les valeurs que l'Europe souhaitait, contre lesquelles elle souhaitait lutter.
Tout à fait. Et aujourd'hui, pour prendre un exemple très concret, aujourd'hui a été signé le pacte mondial... sur la migration à Marrakech, et de nombreux États européens se sont retirés du dispositif et de tout le processus lié à ce pacte mondial. Et donc pour nous, ça traduit aussi un réel échec de l'Europe, déjà de parler d'une seule voix, c'est-à-dire que l'ensemble des États membres puissent parler d'une seule voix sur la question des droits de l'homme aujourd'hui, alors qu'on est face à un pacte mondial des migrations qui n'est absolument pas contraignant, mais qui permet de poser les débats d'une migration à l'échelle internationale. Et donc pour nous, ça, c'est également révélateur justement sur aujourd'hui on en est sur la question des droits de l'homme. Et comme on vous le disait au début de l'émission, ce sont des violations des droits humains multiples. Ce sont aujourd'hui des graves manquements qui sont imputables aux États dans l'ensemble du monde. Et notamment au sein de l'échelle de l'Union européenne.
Bruno David, vous souhaitiez réagir ?
Oui, mais réagir positivement par rapport à ce qui vient d'être dit. En 1945, pour prendre le 8 mai 45, on est juste après en 48 quand même, on était dans un état post-traumatique très important à l'échelle mondiale. Il y avait eu des dizaines de millions de morts quand même. Donc on était dans une post-hostilité maximale en quelque sorte. Et on voit bien, et on le dit dans le manifeste, qu'il s'agit de trouver un équilibre entre hostilité et hospitalité.
Et ça, on y reviendra parce que c'est une notion extrêmement intéressante avec deux mots qui ont la même racine finalement.
Et aujourd'hui, on n'est pas dans cette espèce de post-traumatisme, post-hostilité maximale, ce qui fait que notre appréciation du ratio hospitalité-hostilité n'est sans doute pas le même. Et c'est pour ça sans doute aussi que la Déclaration universelle des droits de l'homme ne serait pas signée aujourd'hui. Alors, je trouve profondément regrettable. Mais je l'analyse comme cela à travers un prisme historique.
Mais Lola Schulman le disait, de nombreux pays européens, alors on peut peut-être les citer, n'ont pas signé le pacte mondial aujourd'hui à Marrakech. Il s'agit de l'Italie, l'Autriche, la Pologne. Lola Schulman, les violations des droits de l'homme en matière de migration sont-elles encore fréquentes aujourd'hui ?
Oui, malheureusement, énormément, et notamment au sein même de l'Union européenne, puisque au niveau d'Amnesty International, on recense les violations des droits à l'encontre des personnes migrantes et notamment ceux qui sont à la recherche d'une protection internationale à nos frontières, notamment à nos frontières intérieures, toutes les violations des droits qui se déroulent aujourd'hui à la frontière franco-italienne où les autorités françaises renvoient en Italie sans examen de leur situation individuelle des personnes et notamment des mineurs qui sont à la recherche d'une protection est extrêmement problématique. Ce qui se passe évidemment en Méditerranée avec un nombre très important de personnes qui décèdent alors qu'ils souhaitent atteindre les côtes européennes, c'est quand même une source d'inquiétude majeure aujourd'hui.
Vous le disiez, hein, Lola Schulman, la déclaration des droits de l'homme n'est pas un traité, elle n'est donc pas contraignante. Est-ce que finalement c'est ça le fond du problème ?
Bah, en tout cas, c'est un idéal, comme vous le disiez, un idéal à atteindre. Et je pense que c'est une source d'inspiration et qui doit demeurer une source d'inspiration. Après, il faut bien avoir en tête les autres instruments qui sont contraignants, notamment dans notre espace européen, avec la Convention européenne des droits de l'homme, mais également, même si on reste au niveau onusien, au niveau des instruments de l'ONU, on a tout ce qui est les pactes sur les droits économiques, sociaux et culturels, les pactes des droits civils et politiques. Ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même énormément de déclarations, de pactes, de séries de traités sur la question des droits de l'homme. Et c'est à nous aussi, société civile, de raviver ça, de faire en sorte que tous ces instruments vivent au quotidien et qu'on ne les oublie pas. Et que la Déclaration universelle des droits de l'homme reste une source d'inspiration pour chacun d'entre nous.
Alors, restez avec nous, Lola Schulman, hein, mais Frédéric Schluss veut réagir. Oui, Frédéric Schluss.
Oui, alors concernant le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, puisque c'est bien le titre de ce pacte, évidemment, il y a derrière une politique politicienne dans chaque pays. Mais il y a aussi quelque chose qui est assez fort dans ce pacte et qui est peut-être difficilement reconnaissable par les États membres de l'Union européenne, c'est le bénéfice des migrations. On voit quand on lit le texte que les migrations sont bénéfiques. Et il y a un certain nombre d'États qui ne souhaitent pas reconnaître que les migrations peuvent avoir des effets bénéfiques.
Et ça, bon, on y reviendra évidemment, parce que c'est l'objet vraiment du manifeste. Lola Schulman, justement, sur le plan juridique, il y a des contradictions qui sont apparues entre les droits de l'homme et les lois nationales, puisque les droits de l'homme disent qu'on peut migrer, mais que les États peuvent refuser l'arrivée d'un migrant, comme on dit. C'est ça aussi qui pose problème ?
De toute façon, là, on est vraiment sur les prérogatives de chaque État et qui décide de maintenir et d'être dans la possibilité de contrôler notamment ses frontières intérieures et de décider qui a le droit d'entrer sur son territoire. Ça, c'est quelque chose, c'est un droit au niveau national qui est important. Et donc, à partir de ce moment-là, chaque État va mettre en place ses règles, même si nous, au niveau européen, on a nos propres règles au niveau européen, qui a pour le but de contrôler, selon les États, pour les États, les allées et venues. Bien entendu, pour nous, ce qui est vraiment problématique, c'est la question d'à quel moment la question des droits de ces personnes se questionne, notamment aux frontières. Comment ce tri souhaité par les États entre les migrants économiques et les réfugiés politiques se fait ? Sur quelle base ? Et pour nous, on est très préoccupés justement de comptant de plus en plus vers ce tri et vers cette distinction qui est faite, où chaque État soit dans une volonté de contrôler qui a le droit d'entrer ou non sur son territoire. Donc pour nous, ce pacte mondial, et je reviens sur ce que disait votre invité, et une avancée dans le fait de se dire que on parle de migration à l'échelle internationale et on pose la question des bienfaits de la migration, sur la question également de l'accès à l'ensemble des services de base, c'est-à-dire des possibilités humanitaires pour les migrants tout au long de leur parcours migratoire. Pour nous, c'est une avancée qui doit ensuite se traduire dans les faits et c'est à nous de faire en sorte qu'on puisse à chaque fois revendiquer les droits de ces personnes et que les personnes soient en mesure d'accéder à leurs droits à chaque étape de leur parcours migratoire.
Très rapidement, Lola Schulman, peut-on parler de recul des droits humains aujourd'hui, selon vous ?
Oui, bien entendu. En tout cas, on se rend bien compte que les violations des droits sont aujourd'hui quotidiennes. Mais ce qui est aujourd'hui important, et ce serait peut-être une note un peu positive, ce qui est aussi nécessaire, c'est de se rendre compte que de nombreuses personnes agissent pour défendre les droits. Pour nous, à Amnesty, on parle beaucoup des défenseurs des droits humains. Et on voit que partout dans le monde, il y a de nombreuses personnes qui décident d'agir pour dénoncer les violations des droits de l'homme et pour eux-mêmes défendre et promouvoir ces droits de l'homme. Et donc, c'est aussi célébrer ces personnes-là qui décident d'agir au quotidien et de promouvoir les droits de l'homme à l'échelle mondiale. Donc, c'est peut-être une note positive, dire que oui, les droits de l'homme sont menacés, mais de plus en plus de personnes décident de se battre aussi pour les défendre.
Et c'est tant mieux. Merci infiniment, Lola Schulman. Je rappelle que vous êtes chargée de plaidoyer sur les questions relatives aux migrations, à l'asile et aux droits des réfugiés chez Amnesty International France. Bonne journée à vous.
Ok. J'ai demandé à Scred de faire une instru simple. Parce que je vais dire des trucs simples. Parce que vous êtes trop cons. Ok. Simple. Basique. Basique. Ok. Les gens les plus intelligents sont pas toujours ceux qui parlent le mieux. Simple. Les hommes politiques doivent mentir, sinon tu voterais pas pour eux. Basique. Si tu dis souvent que t'as pas de problème avec l'alcool, c'est que t'en as un. Simple. Faut pas faire un enfant avec les personnes que tu connais pas bien. Basique. Les mecs du FN ont la même tête que les méchants dans les films. Simple. Entre avoir des principes et être un sale con, la ligne est très fine. Basique. Hugo Boss habillé des nazis, le style a son importance. Simple. Les dauphins sont des violeurs. Ouais. Méfie-toi des apparences. Basique. Basique. Simple. Simple. Basique. Basique. Simple. Simple. Basique. Vous n'avez pas les bases. 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 Si c'est marqué sur internet, c'est peut-être faux, mais c'est peut-être vrai. Simple. Illuminati ou pas, qu'est-ce que ça change, tu te fais baiser. Basique. À l'étranger, t'es un étranger, ça sert à rien d'être raciste. Simple. Les mecs les plus fous sont souvent les mecs les plus tristes. Basique. 100 personnes possèdent la moitié des richesses du globe. Simple. Tu seras toujours à un ou deux numéros d'avoir le quintet dans l'ordre. Basique. Si t'es souvent seul avec tes problèmes, c'est parce que souvent le problème c'est toi. Simple. Toutes les générations disent que celle d'après fait n'importe quoi. Cliché. Basique. Simple. Simple. Basique. Basique. Simple. Simple. Basique. Basique. Simple. Simple. Basique. Basique. Simple. Simple. Basique.
Basique, Orelsan sur RFI pour célébrer les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le Muséum national d'histoire naturelle a publié le 22 novembre dernier un manifeste consacré aux migrations. Loin de toute dimension polémique, des scientifiques d'horizons différents ont pris part à un débat souvent clivant et polémique autour de la question « La migration est-elle toujours un droit ?» Nous sommes en compagnie de Bruno David, le président du Muséum national d'histoire naturelle, et Frédéric Schluss, ethnologue, professeur et directrice du département Hommes et Environnement du Muséum. Bruno David, en 2017, le Muséum publiait un premier manifeste, Quel futur sans nature. Aujourd'hui, un second manifeste est donc consacré aux migrations. Pourquoi les scientifiques ont tardé finalement à s'intéresser à ces questions sociales ?
Alors, je pense qu'on a essayé.
Qu'est-ce qui vous a motivé ?
Ce qui nous a motivés, c'est de faire peut-être un peu plus que simple et basique, déjà.
Non, bien vu.
En dehors de la plaisanterie. Ce qui nous a motivés, c'est que pour moi, l'histoire naturelle a quelque chose à dire sur beaucoup plus que simplement ce qu'on a l'habitude d'appeler les sciences de la vie et de la Terre. C'est-à-dire que dans ce que j'englobe dans l'histoire naturelle, à la fois aussi une dimension humaine, une dimension des relations entre l'homme et le reste de la nature, par exemple, et puis comment fonctionnent, par certains aspects, certaines sociétés humaines ou les sociétés humaines. Donc ça n'est pas aberrant que le muséum s'empare d'un thème comme les migrations. D'autant que ce thème comme la migration, c'est un thème qui touche également les plantes, les animaux, si on prend un peu de recul, et qui touche l'homme depuis qu'il est homme. Les premiers migrants hors d'Afrique, ça remonte à 1,8 million d'années. Bien avant que notre espèce n'apparaisse, puisqu'elle est apparue il y a seulement 300 000 ans. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez général et qui touche à l'histoire naturelle. Donc l'histoire naturelle a quelque chose à dire sur ce genre de choses, parce que ce sont des questions sociales, mais qui peuvent aussi être appréhendées via un éclairage, un angle différent que celui qu'on peut traditionnellement leur accorder. Donc voilà pour cela.
Depuis 15 ans, la migration est associée au vocable de la crise. On parle de crise des migrants, de crise des réfugiés. Frédéric Schluss, comprenez-vous ces termes et vous semble-t-il justifié ? Est-ce qu'il y a une crise ?
Est-ce qu'il y a une crise ? Ce serait beaucoup.
Alors pour les migrants, peut-être, mais. pour les États.
Non, ce qu'on a voulu faire dans un premier temps, c'était essayer de revenir sur les définitions, sur les termes qui étaient employés pour parler de ce phénomène de la migration. Se dire qu'il y avait tout un tas de termes qui étaient utilisés, migration, mobilité, déplacement, immigration, réfugiés, et que le terme de crise était souvent associé. Or, ce terme de crise, il apparaît depuis assez peu de temps, puisqu'avant, il n'y avait pas de crise. Et c'était donc travailler sur toutes les connotations qui entouraient le terme de migration aujourd'hui en sociologie, ethnologie. Donc il y a des gens qui travaillent depuis longtemps, hein, dont c'est la spécialité, cette thématique de la migration. On a balayé comme ça toutes les connotations qui sont à la fois des connotations de crise ou des connotations un peu misérabilistes. Et les connotations, elles nous disent ce que les gens pensent des migrations, mais elles ne nous disent pas ce que sont véritablement ces migrations. Et donc, il faut dépasser les connotations pour pouvoir comprendre le phénomène.
Mais vous parlez du vocabulaire, c'est vrai que vous le rappelez dans le manifeste, c'est assez flagrant. Quand quelqu'un du Sud vient au Nord, c'est un réfugié ou un migrant. Quand quelqu'un du Nord va au Sud, c'est un coopérant ou un expatrié.
Oui, on voit bien que ça nous dit plus de ce que les gens pensent de cette migration que de la migration en elle-même. Et quand on travaille sur la crise des migrations, nous, on pense entre nous qu'il s'agit davantage peut-être d'une crise de l'accueil aujourd'hui, c'est-à-dire comment on accueille la migration plutôt qu'une crise de la migration, puisqu'en fait la migration a toujours existé et que c'est un chiffre étonnamment stable du nombre de migrants. Le flux du migrant n'a pas bougé depuis des décennies.
Alors quel est-il, pouvez-vous nous le rappeler, 3%, c'est ça ?
3%, oui. 3% de la population qui migre au niveau mondial.
Mais alors du coup, Bruno David, scientifiquement, il faut en déduire qu'il n'y a absolument aucun risque d'envahissement, comme certains peuvent le craindre ?
Je pense d'abord qu'il n'y a pas de risque d'envahissement, puis surtout je voudrais appeler à prendre du recul.
Mais c'est ce qu'on entend, hein, l'envahissement, le remplacement.
Oui, je sais bien, mais je voudrais appeler à prendre du recul. Pourquoi ? Parce que si on remonte un peu dans le temps, sur notre histoire, l'histoire de notre espèce, c'est 300 000 ans. Il y a à peu près 200 000 ans, notre espèce est sortie d'Afrique, s'est répandue un petit peu sur tous les continents. Elle a mis un certain temps à le faire, hein, puisqu'elle est arrivée en Amérique du Nord il y a 14 000 ans. Et elle a toujours bougé, depuis les origines. Et en fait, paradoxalement, c'est avec la révolution néolithique, il y a 10 ou 12 000 ans, qu'elle a commencé de se sédentariser. Mais sinon, par nature, c'est une espèce qui est mobile, qui a toujours migré, qui s'est toujours déplacée. Elle s'est sédentarisée à la révolution néolithique, mais ça n'a pas empêché les migrations de continuer. Donc, elles ont eu lieu de tout temps. Et on zoome en quelque sorte, où on a une loupe grossissante sur ce qui se passe aujourd'hui, pour diverses raisons, qui sont des raisons éventuellement économiques, qui sont des raisons en partie psychologiques, et on en fait une affaire absolument gigantesque, alors que, comme le disait Frédéric Schluss, rien n'a vraiment changé depuis des décennies et des décennies. Donc c'est vraiment plus un problème d'appréciation, de comportement, que de réalité factuelle, de ce qu'est la migration.
On reviendra évidemment sur cette nécessité absolue pour notamment sauvegarder l'espèce humaine de migration, de migrer. Mais
biologiquement, oui.
Biologiquement, effectivement. Hein. Mais d'abord, juste pour vraiment revenir à cette thématique, pourquoi est-ce que selon vous, la migration est toujours perçue avec une approche anxiogène ? Comment on justifie cela ?
Alors, comment on la justifie, c'est certainement assez. Il y a beaucoup d'éléments qui permettent d'en parler. C'est les discours, les traitements politiques, des traitements médiatiques parfois qui sont quand même qui s'appuient pas sur un certain nombre de faits. Et on est certainement aujourd'hui dans une période où l'étranger fait figure. C'est une figure que l'on souhaite rejeter, que l'on invisibilise. En l'appelant migrant, en faisant un tout où on voit bien qu'il y a des choses extrêmement différentes, que l'on invisibilise, que l'on met dans des hors-lieux aussi, dans des centres qui n'ont pas vraiment de réalité géographique. Et donc c'est plus une volonté de la société que quelque chose qu'on peut scientifiquement argumenter. Il n'y a pas de science scientifique. Ce qu'on vraiment souhaitait faire au niveau de ce manifeste, c'est de permettre à tout le monde de construire sa propre pensée, d'avoir une pensée autonome et critique par rapport à ce fait-là. Il était temps que collectivement, les scientifiques prennent la parole. Parce que c'est un sujet qui est travaillé par les scientifiques, bien sûr, mais collectivement, prendre la parole là-dessus, c'est quelque chose d'important pour pouvoir apporter des faits dans le débat public.
Alors on peut aussi peut-être rappeler que seule une petite fraction de l'humanité souhaite migrer. Bruno David, les migrants sont plutôt une aubaine en plus pour les pays qui les reçoivent.
Ah, économiquement.
Économiquement parlant, bien sûr.
Les migrants ont souvent beaucoup à porter.
Vous en parlez dans le manifeste, hein, avec les 3D jobs.
Oui, nous en parlons
dans
le manifeste.
Dirty, dangerous, demanding. Donc sale, dangereux et pénible.
Oui, il y a d'abord un besoin de migrants. Au-delà du fait que c'est une nécessité, l'espèce humaine a la bougeotte en quelque sorte. Donc on ne va pas empêcher les gens de bouger. C'est dans nos gènes, si je peux dire. Et. On a besoin des migrants, ça a été largement démontré. Je veux dire, on va prendre un peu de recul là encore. L'Amérique du Nord et la dynamique économique de l'Amérique du Nord s'est construite sur la base de la migration. Une grande partie de la dynamique économique de l'Europe, et notamment des fameuses 30 glorieuses que tout le monde regrette maintenant terriblement, s'est construite autour de phénomènes de migration également. Ça a été pareil entre les deux guerres, entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, avec les migrants qui venaient notamment d'Italie par exemple. Et dont beaucoup d'entre nous sont d'ailleurs des descendants. Donc on voit bien l'input que ça apporte aux économies, aux sociétés. Maintenant, quand l'économie ou la société marche moins bien, c'est forcément des fois un petit peu plus difficile. Mais il faut, pour prendre une expression très triviale, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Enfin, on mélange les sujets.
Il y a une énorme inégalité hein, parmi les migrations. Si on vient du Nord et qu'on est riche, on peut aller à peu près partout. Lorsqu'on vient du Sud et que l'on est pauvres, les portes se ferment généralement. Comment remédier à cela, Frédéric Schloss ? Et qu'est-ce que ça traduit, encore une fois, de l'époque dans laquelle nous vivons ?
Alors, comment remédier ? J'aurais du mal à répondre, mais c'est vrai qu'il y a un inégal droit à la circulation. Et aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que la migration, ce n'est pas juste des personnes qui veulent s'installer absolument dans un pays. D'accord. C'est aussi de la circulation à travers différents lieux. Il y a des lieux de départ, des lieux d'accueil, des lieux de transit. Et c'est plutôt repenser l'immigration comme une circulation possible sur la Terre, plutôt que de penser obligatoirement que les personnes vont venir, vont s'installer définitivement. Non, aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe et il faut bien prendre en compte cette complexité. C'est d'ailleurs dans le pacte mondial sur la migration qui est discuté à Marrakech. L'objectif numéro un, c'est d'essayer de comprendre aujourd'hui ce que sont devenues ces migrations avec la facilité de circulation et avec les échanges, des échanges culturels qui peuvent se faire par les nouveaux réseaux numériques aussi.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Frédéric Schloss, donc on a dit que les migrants étaient plutôt une aubaine. Vous nous avez rappelé un petit peu que ces migrations s'étalaient sur des millions d'années et elles sont surtout utiles biologiquement. Expliquez-nous tout.
Alors, c'est un problème de génétique des populations, en fait, si on cherche un petit peu plus de technique. C'est-à-dire qu'une population isolée, fragmentée, une sous-population en quelque sorte, va rapidement perdre de sa diversité génétique et par conséquent, elle va se retrouver fragilisée face à des aléas, de changement d'environnement, d'arrivée d'un pathogène, etc., etc. La migration, elle provoque un mélange, elle provoque un enrichissement par brassage génétique, un enrichissement génétique qui fait que la population est plus robuste. Ça vaut pour les plantes, ça vaut pour les animaux et ça vaut pour Homo sapiens, qui est un animal parmi les autres. Donc d'un strict point de vue biologique, la migration est un bien et les mélanges génétiques sont un bien pour l'espèce et pour la survie de l'espèce.
Ben c'est un bien et une propriété spécifique des êtres vivants. Du coup, lutter contre l'immigration, est-ce que c'est lutter contre la nature profonde de l'homme finalement ?
Toutes les espèces bougent. Il n'y a pas de vie sans déplacement, on le dit dans le manifeste, il n'y a pas de vie sans déplacement. Et donc vouloir rendre les choses, les rendre totalement statiques, est une stupidité biologique.
Et du coup, est-ce que l'absence de migration entraînerait notre perte finalement ? La perte de l'espèce humaine, je veux dire.
Oh, soyons raisonnables quand même.
Je suis jusqu'au boutiste, mais suivant votre raisonnement.
À très long terme, sans doute. À très long terme, sans doute. Immédiatement, non. Bien sûr que non. D'autant que je pense que là, vous êtes dans une sorte d'idéal. Je ne sais pas s'il faut le qualifier de noir ou de blanc, mais enfin, vous êtes dans une sorte de pseudo-idéal qui ne se produira pas de toute manière parce qu'on n'empêchera pas les migrations. Et donc, les brassages génétiques entre populations à travers la planète.
Alors, vous l'écrivez dans le manifeste, hein, une population isolée, sans apport migratoire, verra son patrimoine génétique s'appauvrir au fil des générations. C'est important de le rappeler, ça aussi.
Oui, bien sûr. Je rappellerai aussi, par exemple, que nous nous sommes hybridés avec l'homme de Néandertal, d'un côté, avec l'homme de Denisova, qui était un autre homme préhistorique en allant vers l'Asie, et que donc nous avons, nous Européens, un certain pourcentage de gènes de Néandertal en nous, comme les Asiatiques ont un pourcentage de gènes de Denisova en eux. Donc tout ça, c'est aussi le résultat des migrations.
Alors concernant justement ces migrations, Frédéric Schluss, que nous dit le temps long? Parce que vous l'abordez dans le manifeste sur les migrations, ce temps long, rappelons qu'il y a des traces de migration qui apparaissent il y a 1,8 million d'années. C'est même un temps très long.
Oui, un temps très long, évidemment. Les premières traces, 1,8 million d'années, c'est les hominines. Et donc, ce qui nous a précédé, en fait, Homo sapiens, comme l'a rappelé Bruno David, n'apparaît qu'il y a 300 000 ans. Ce que ça nous dit, c'est qu'en fait, il y a eu deux grands types de migrations. Un premier type de migration qui est toutes les sorties d'Afrique. On a bien aimé cette expression quand on a écrit le manifeste, habiter le monde. Ça a permis en fait à l'homme, Homo sapiens notamment, d'habiter le monde sur tous ces continents et tous les espaces géographiques. Après, il y a un autre grand type de migration qui est la diffusion de la sédentarisation, la diffusion du néolithique. Et là où l'agriculture, l'élevage s'est diffusé. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu, Bruno David en a parlé, des échanges biologiques, mais aussi beaucoup d'échanges culturels. C'est-à-dire toutes les formes d'innovation, de diffusion des techniques, elles s'est faites par les migrations. Et ce temps long, il nous dit aussi que les motivations des migrants, c'était pas seulement des motivations de ressources pour accéder à des ressources, c'est aussi des motivations de découverte, d'accomplissement de soi. Quand on voit comment les migrations ont pu coloniser l'ensemble du Pacifique, de l'Asie du Sud-Est jusqu'en Polynésie française, voilà, on a colonisé petit à petit les îles, et c'est assez intéressant de voir comment ces navigateurs avaient envie d'aller voir l'île d'après.
Toutes les questions, en fait, de oui, allez-y.
Oui, je voudrais rebondir là-dessus pour un autre exemple. Pourquoi, finalement, on a des hommes qui ont traversé, qui sont passés par Bering, qui était émergé à l'époque, donc sont passés de la Sibérie à l'Alaska. Ils sont descendus le long des côtes d'Amérique du Nord. Donc, vous pouvez se dire, ils vont vers des températures et des climats plus cléments. C'est-à-dire, il y a 14 000 ans, ça. Donc, ils descendent le long des côtes. Puis après, ils ont continué. Ils ont traversé l'Amérique centrale, passé l'isthme de Panama. Ils sont descendus en Amérique du Sud. Ils sont allés jusqu'à l'extrême pointe de l'Amérique du Sud, dans des environnements, mais épouvantables. Pourquoi ils sont allés là? C'était la curiosité qui les poussait aussi. C'était aller voir au-delà de la colline qu'il y avait devant eux, aller pousser leur horizon un cran plus loin. Et c'est ça qui motivait les choses. Donc on voit bien qu'on est une espèce mobile à travers ces exemples. Parce que sinon, rationnellement, moi je serais resté au chaud. Je ne serais pas allé jusqu'à la pointe de l'Amérique du Sud, en Patagonie, dans des environnements qui sont quand même relativement hostiles.
Partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter. Garder les instants qu'on a volés. Partir un jour sans bagage. Oublier ton image sans se retourner. Ne pas regretter. Penser à demain, recommencer. Pour l'envie que l'on a de guider ses pas, pour garder ses émois, écouter son cœur qui bat, pour savoir regarder un ciel étoilé, tendre les mains à son destin, vouloir plus fort encore demain. Partir un sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés. Partir un jour sans bagage, oublier ton image sans se retourner, ne pas regretter, penser à demain, recommencer. Que l'on donne et qui s'abandonne, un mot que l'on pardonne pour un rêve qui nous étonne, pour le coup retrouver de la liberté, ouvrir les yeux sans se dire adieu, penser à rien, rêver un peu,
partir un jour. Philippe Catherine sur RFI. Alors, comment l'hospitalité est-elle perçue d'un point de vue scientifique? Notre reporter Raphaël Constant a posé la question à François Errant, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Migration et Société. Il dirige également l'Institut Convergence Migration porté par le CNRS.
Il y a toute une tradition de philosophie politique de l'hospitalité qui est fort ancienne. Vous apercevez que l'hospitalité, le droit de toute personne à quitter son pays n'a pas pour pendant le droit d'être accueilli systématiquement dans un autre pays. Il faut l'accord aussi des populations hôtes. Tout ceci a été traité par toute une série d'auteurs. Les politiques d'hospitalité sont très variables. D'une certaine manière, elle repose sur un fondement qui est un peu ce qu'on appelle la règle d'or en éthique, c'est-à-dire ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi-même. Donc si tu as la capacité de te mettre à la place de l'autre et de se dire mais que se passerait-il si moi, par exemple, un jour je devais migrer, comment j'aimerais qu'on me traite? Alors on peut faire des modèles. Que se passerait-il si on appliquait systématiquement cette règle? Que se passe-t-il quand on refuse de l'appliquer? Et on a des cas de figure tout à fait intéressants. Vous avez par exemple la migration vénézuélienne, elle est fascinante en ce moment parce que ce sont des gens qui sont obligés de migrer parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus de ressources, il n'y a plus rien ne fonctionne, il y a une inflation énorme. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on a là un exemple de gens qui jamais de leur vie n'avaient imaginé qu'un jour ils allaient devoir migrer. Parce que le Venezuela était un pays qui attirait des migrants. Et voilà que tout à coup, ils doivent se mettre dans la perspective d'avoir à migrer eux-mêmes. Alors psychologiquement, c'est extrêmement difficile. Et inversement, vous avez des pays voisins qui, eux, étaient des pays traditionnellement d'émigration, comme l'Équateur, par exemple, qui se trouve tout à coup à prendre le rôle d'un pays d'accueil et d'immigration. Donc oui, on peut étudier la façon dont l'hospitalité ou l'inhospitalité se constitue, c'est souvent lié à des questions d'histoire, de familiarité. Les pays de l'Est, par exemple, n'ont jamais été habitués à accueillir la migration non européenne de travail pour reconstituer leur économie dans les après-guerres. Et puis, ils n'ont pas non plus de passé colonial. Et ceci explique, sans le justifier, mais ceci explique quand même assez largement que les pays de l'Europe de l'Est, les anciens pays communistes, n'aient quasiment pas accueilli de demandeurs d'asile, n'ont accordé absolument aucune protection, enfin, à des taux absolument dérisoires. La Pologne, par exemple, c'est dit protection d'asile pour 1 million d'habitants, ce qui est voisin de zéro, alors que la Suède, ça va être 7 000. Donc la Suède ou la Norvège ont des traditions d'accueil, des traditions d'asile, et puis sont aussi équipés juridiquement pour traiter la demande d'asile. Par exemple, la France elle-même est équipée juridiquement pour traiter la demande d'asile, donc elle a des institutions qui en quelque sorte règlent l'hospitalité, alors que l'Italie ou l'Espagne, qui sont devenus très récemment des pays d'immigration, ne se sont pas équipés juridiquement pour traiter la demande d'asile.
Comment les chercheurs, la recherche, l'Institut des migrations peut justement s'emparer de cette question de l'accueil des migrations?
Eh bien, l'Institut des migrations traite le sujet dans plusieurs de ses dimensions. Il y a les chercheurs qui étudient les aspects juridiques. Par exemple, une grande question, c'est la Convention internationale des droits de l'homme ou la Convention européenne des droits de l'homme, la Convention internationale des droits de l'enfant. Dans quelle mesure est-elle appliquée? En réalité, quand on regarde en détail, les pays mettent en œuvre de façon assez variable et une marge de mise en pratique qui est assez forte. Il y a les chercheurs qui vont étudier la pratique de l'hospitalité avec un regard d'anthropologue. Ils vont, par exemple, étudier toutes ces familles qui accueillent des migrants chez eux et qui souvent le font dans le cadre de réseaux associatifs. Il y a une autre façon d'aborder la question de l'hospitalité, c'est par exemple de se demander mais à quel échelon les décisions sont prises. Et il y a des villes qui ont leur propre politique migratoire, de certaine manière. C'est pas si facile, elles sont obligées de respecter la législation, mais enfin, elles peuvent décider de mettre des moyens ou pas dans l'accueil des migrants, dans la libération d'un certain nombre de logements, qui peuvent être des logements d'urgence ou des logements plus durables. Et ça, chaque ville peut le décider. Il y a des pays où la politique d'hospitalité est liée à la présence d'institutions caritatives très fortes, comme c'est le cas de l'Allemagne. Donc, vous voyez, les travaux à plusieurs échelles, qui peuvent être juridiques, qui peuvent être nationaux, internationaux, locaux ou micro-micro, c'est-à-dire au niveau même des familles et des individus. Toutes ces dimensions-là, il faut pouvoir les relier après et ne pas se contenter de juxtaposer évidemment des monographies.
Des propos recueillis par Raphaël Constant. Une réaction, Bruno David ?
Oui, là encore, je vais prendre un petit peu de recul. Je dirais que chaque espèce a des caractéristiques propres, que ce soit des caractéristiques génétiques, morphologiques, par exemple, un pissenlit, ça a des fleurs jaunes et ça a des graines qui se dispersent. Enfin, c'est l'image de la rousse. Hein. Un rouge-gorge, c'est un oiseau qui a un plastron rouge, par exemple. L'homme, morphologiquement, il a un menton, il a un front qui a une certaine forme, il a une mâchoire qui est plutôt réduite, etc. Et chaque espèce a aussi des caractéristiques comportementales propre à cette espèce. Et l'hospitalité est une caractéristique comportementale propre à l'espèce humaine. Donc c'est un petit peu froid quand je le dis comme ça, parce que c'est un regard de biologiste, finalement, sur un comportement qui suscite des émotions chez nous, positives ou négatives, mais enfin qui va susciter des émotions. Donc c'est un petit peu froid, mais c'est quand même comme ça que ça se passe.
Et quel est le regard de l'ethnologue sur cette notion d'hospitalité, Frédéric Schlouz?
Le regard est assez différent.
J'espère bien.
Non, moi ce qui m'intéresse, c'est déjà le renouveau du terme hospitalité. Effectivement, c'était un terme qui était un petit peu tombé en désuétude. Et aujourd'hui, il y a vraiment un renouveau autour de ce terme. Et à deux niveaux, au niveau individuel, où on voit bien accueillir, c'est aussi un acte citoyen et un acte individuel. Mais cette penser l'hospitalité collectivement, c'est-à-dire penser l'hospitalité, alors ça peut être à l'échelle d'une ville, mais aussi à l'échelle d'un État. Parce que l'hospitalité, c'est bien sûr accueillir, mais c'est aussi donner une place à un individu. Et la place, c'est des formes de reconnaissance de cet individu et des migrants aujourd'hui qui sont invisibilités, c'est leur donner une place en tant que citoyen ou reconnaissance de formes de citoyenneté ou accepter que ce soit des personnes qui vivent ici. Alors par rapport à ça aussi, il y a toutes les études qui montrent que finalement quand quelqu'un est accueilli, ils se font ou se mélangent, pas se fondre, ça serait peut-être pas le terme exact, mais ils se mélangent assez rapidement dans la population. Le programme de recherche Trajectoire et Origine montre que 2/3 des enfants de migrants se marient avec des personnes qui sont natives ou des enfants qui ne sont pas enfants de migrants. Donc on voit bien qu'il y a ce brassage et que quand il est accueilli, la personne est accueillie. S'intègre dans de bonnes conditions, même si les termes intégration sont des termes aussi un petit peu connotés.
Mais vous le rappelez dans le manifeste, la philosophie également parlait d'hospitalité avec ce texte fameux de Kant, hein, qui voyait que justement l'hospitalité c'était une politique d'accueil finalement, et non pas juste un droit d'installation.
Oui, c'est politique d'accueil, mais qui va encore plus loin, qui va au-delà de secourir, accueillir, il y a aussi appartenir et être, faire un individu citoyen d'un collectif. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Et c'est pour ça qu'on a voulu quand même, dans ce manifeste, qu'un philosophe puisse aussi s'exprimer, parce que ça nous permet de conclure et d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion. C'est dans quel monde voulons-nous vivre et vers quoi voulons-nous aller, sachant qu'il y a cette opposition entre hospitalité et hostilité. Quels équilibres faut-il trouver ?
Bruno David, peut-il y avoir des limites à l'hospitalité pour empêcher finalement, et ça aussi vous en parlez dans le manifeste, qu'elle ne se tourne en son contraire finalement ?
Oui, il y a une limite, c'est-à-dire que si on pousse à l'extrême...
Si tout le monde est chez soi partout.
Voilà, si on pousse à l'extrême l'hospitalité, vous êtes chez vous, chez moi et réciproquement et ça ne fonctionne pas. Donc forcément, nécessairement, si on veut que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un équilibre entre hospitalité, hostilité, et tout est dans le réglage de cet équilibre. Alors l'objectif pour nous du manifeste quand même, c'était donner des clés de lecture à nos concitoyens, de façon à ce que chacun puisse se déterminer en conscience. Mais je voudrais quand même bien attirer l'attention sur le fait que On ne doit pas, le muséum parle en tant que muséum, en tant qu'établissement.
C'est ça, c'est pas au nom des chercheurs qui ont rédigé ce manifeste, c'est au nom de l'institution finalement.
Moi je souhaitais vraiment que ça soit l'institution qui prenne la parole à travers ces manifestes. Bien sûr, il y a des chercheurs derrière, sans ça il n'y aurait rien. Il y a des chercheurs derrière, il y a des chercheurs très sérieux, il y a une coordination derrière. Frédéric Schlous a été à la tête de cette coordination, mais néanmoins c'est l'établissement qui s'exprime. L'établissement, il n'est pas là pour donner des leçons, il est là pour apporter un éclairage qui permette à chacun de se déterminer en conscience. C'est ça le objectif. Donc, on attire l'attention sur le fait qu'il y a un nécessaire équilibre à trouver entre hospitalité et hostilité, mais on ne dit pas où doit être cet équilibre, on ne dit pas à chacun ce qu'il doit faire. On n'est pas là pour remplacer, on n'a pas de rôle social particulier. Notre rôle social, c'est d'éclairer, c'est de forger des citoyens responsables, et on s'appuie pour cela sur la science, tout simplement.
Avec des faits concrets et précis. Parlons, il nous reste encore quelques minutes, parlons peut-être du futur et des migrations du futur que l'on peut tout à fait entrevoir, puisque la multiplication des crises, des guerres, du réchauffement climatique feront qu'il y aura de plus en plus de migrants, finalement, sans doute. Et est-ce qu'il faut s'en inquiéter, finalement ?
Oui, alors quand on dit de plus en plus de migrants, on ne sait pas. En fait, les chercheurs avec qui on a travaillé, notamment les démographes, montrent que faire des modèles prédictifs, c'est extrêmement compliqué. Qui aurait pu prévoir, c'est ce qu'on dit dans le manifeste, qui aurait pu prévoir la guerre en Syrie
Les
guerres en Libye, qui a mis des millions de personnes.
Je parlais de l'étude publiée par le FMI, vous en parlez justement dans le livre.
Oui, dans l'étude publiée dans le FMI, ça concerne plus particulièrement les immigrés subsahariens, parce qu'effectivement...
Pays de l'OCDE.
Oui, il y a cette thématique du grand remplacement où il y aurait 25% en 2050, 25% de la population de migrants subsahariens. En fait, ce qui montre, ces modèles-là montrent que les immigrants subsahariens migrent très peu, restent, et quand ils migrent, ils restent à proximité de leur pays, pour plein de questions, de contacts, de liens avec ces pays. Et donc, aujourd'hui, en 2013, le chiffre était de 0,4% et il serait au maximum à 2,4% d'émigrés subsahariens en 2050.
Et donc, c'est une goutte d'eau, finalement.
Et on est très très loin des 25% qu'on nous prédit, qu'on nous promet et vers quoi on nous affole. Mais il y a aussi des statistiques, des modèles de l'ONU qui montrent qu'il y a une stabilisation et qu'il y aurait peut-être une baisse en 2050. Donc c'est assez difficile parce qu'il y a plein d'événements qui peuvent arriver.
Bruno David, mot de la fin.
On sait bien qu'il n'y a rien de plus difficile que de prédire le futur. Donc, et ça vaut aussi pour les migrations. J'attire quand même l'attention, parce que c'est un sujet d'actualité pratiquement. Le changement climatique est un vecteur de migration majeur.
Bien sûr.
Et que c'est pour ça qu'il faut aussi s'en préoccuper, parce que ça pourrait pousser des populations, du fait même que leurs conditions de vie deviendraient insupportables où elles se trouvent initialement, à bouger. Et ça n'est pas prévisible. On ne sait pas dans quelle direction tout ça pourra se passer, parce qu'au-delà d'une certaine limite, c'est plus de la science, c'est de la boule de cristal.
Et ça, ne nous aventurerons pas sur ce terrain-là. Merci infiniment à tous les deux d'être passés dans ce studio pour nous présenter donc ce deuxième manifeste consacré aux migrations. Un manifeste, je le rappelle, du Muséum National d'Histoire Naturelle et au nom du même muséum, vous insistez là-dessus, Bruno David. Bruno David, donc merci, je rappelle que vous êtes le président du Muséum National d'Histoire Naturelle. Frédéric Schlous, merci également à vous. Vous êtes ethnologue, professeur et directrice de département hommes et environnement au Muséum National d'Histoire Naturelle. Je vais y arriver, merci. C'est la fin, évidemment, de cette émission, vous l'avez compris, qui était préparée par Sophia Bedard. À la technique et à la réalisation, c'était Hugo Violas. Demain, nous parlerons de soucoupes volantes et d'extraterrestres autour de la question « L'ufologie est-elle une science ?» Bonne journée à tous et à demain, à suivre un nouveau journal sur la Radio du Monde.
Pour nous contacter, autour de la question @rfi.fr.